Bonjour et bienvenue sur le podcast BDSM de Larry. Je suis Larry, ceci est le 82e épisode. Dans cet épisode, je vais vous parler de l'ADREFA, l'association de réalisation de fantasmes, en posant la question, est-ce un rêve inaccessible ? Première partie, pourquoi cet épisode ? L'ADREFA, l'association de réalisation de fantasmes, c'est une idée qui me trotte en tête depuis un certain temps. J'ai même écrit une histoire BDSM que vous pouvez trouver sur mon site univers-bdsm.info dans la zone histoire. Cet article s'appelle Lude et l'ADREFA, la visite de L22. Alors pour l'instant, cette association, elle n'existe pas, elle existe que dans ma tête et dans le récit dont je viens de parler à l'instant. Et comme son nom l'indique, l'idée, c'est de permettre de réaliser un certain nombre de fantasmes, BDSM, bien entendu. Dans la partie suivante, je vais vous présenter l'ADREFA, telle que je la conçois en tout cas, beaucoup plus en détail. À l'origine, l'ADREFA, je dois vous le dire, je l'avais créé principalement dans le but d'écrire une histoire BDSM un peu intéressante, je vais en parler tout à l'heure d'ailleurs, et je n'avais pas, au début en tout cas, pensé réellement très sérieusement à la possible création d'une telle association, en réel, de faire vraiment les choses que je décris dans l'histoire dont je viens de parler tout à l'heure. Mais ça, c'était en juin 2020, et depuis, le temps a passé, et au fur et à mesure que je repensais à des choses comme ça, finalement, ça m'est apparu comme étant plus intéressant que ce que j'avais envisagé au départ. Maintenant, je ne vois plus cette soi-disant association, puisque pour l'instant ça n'existe pas, comme étant un véhicule pour rédiger des histoires, parce que je pense à terme faire intervenir les personnages de l'ADREFA dans d'autres histoires BDSM sur mon site. Maintenant, avec un peu de recul, je me dis que finalement, ce serait intéressant de la créer pour de vrai, ou du moins d'essayer de faire quelque chose dans ce genre-là, parce que franchement, ce que j'ai décrit dans mon article, dans cette histoire BDSM, c'était quand même pas mal exagéré. Ça va probablement pas vous surprendre, mais la raison pour laquelle j'ai un peu évolué dans ma conception sur le sujet, c'est quelque chose de très simple, et j'en ai déjà parlé dans pas mal d'autres épisodes, c'est que je reçois pas mal de demandes, et surtout je vois passer sur les forums, notamment dans les forums pour faire des rencontres, sur les sites sociaux BDSM, bref, un peu partout, pas mal de demandes, pas mal de déconvenues qui sont racontées, de soucis, de problèmes, beaucoup de déceptions aussi, et ça va parfois carrément jusqu'au désespoir. Ce genre de choses, j'en parle par exemple dans mon épisode 77, aider ou pas mon dilemme. Franchement, dès qu'on regarde un tout petit peu ce qui se passe quand on parle de BDSM, quand on écoute ce que disent les gens, quand on fait un peu attention aux sentiments sous-jacents, parce que tout n'est pas toujours dit, quand on voit comment les personnes se comportent, et pas seulement lors des événements, mais surtout sur les écrits, et puis bien sûr les messages que je reçois, qui sont souvent des messages, vous vous en doutez un petit peu, plutôt désespérés, et qui sont souvent pas plaisants à lire, évidemment, très vite, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes. Les raisons sous-jacentes, je passe dessus, j'en ai déjà parlé dans l'épisode 77 notamment, ce sont toujours les problèmes que le BDSM, c'est tabou, c'est un peu difficile d'en parler ouvertement, du coup c'est assez difficile soit de trouver des partenaires, soit de convaincre un ou une partenaire de s'y mettre à faire du BDSM, et même quand on en fait un petit peu, c'est pas toujours aisé de faire certaines choses parce que on sait pas comment faire, on sait pas à qui s'adresser, on sait pas où aller, il y a des complications. Et même au-delà de ça, évidemment, vous avez beaucoup de personnes qui ont des envies, des fantasmes, même des personnes qui font du BDSM, et qui peuvent pas les faire parce que il leur manque un local, il leur manque des personnes pour aider, plein de choses. Je vais en reparler tout à l'heure de tout ça. En résumé, il y a vraiment des besoins, ça c'est sûr, et quelque chose du genre une association pour aider à faire un certain nombre de choses, ça serait très sympa pour ne pas dire plus. Seulement, voilà, le problème, c'est que tout ça, c'est très beau dans mon imagination, sur le papier, si vous voulez, mais je pense que vous vous en doutez, le faire en vrai, c'est tout autre chose. Et donc, ça m'a fait me poser la question, est-ce faisable? Est-ce que ce serait envisageable de faire quelque chose dans ce goût-là, même peut-être pas aussi sophistiqué que ce que je décrivais dans mon histoire? Ou est-ce que c'est juste quelque chose qui restera un rêve totalement inaccessible? Je vais vous présenter mes pensées à ce sujet dans la suite de cet épisode. Deuxième partie, présentation de l'ADREFA ou Association de réalisation de fantasmes. Comme le format podcast ne permet pas toujours de bien voir le titre, je reprécise que ADREFA, ça s'écrit A-D-R-E-F-A. Ce sont évidemment certaines des lettres de début des mots Association de réalisation de fantasmes, bien entendu. Alors, une chose, avant de commencer à vous présenter qu'est-ce que je conçois quand je parle de cette association, je parle pas de mes fantasmes à moi, hein, évidemment. Je pense que c'était assez clair dès le départ, mais soyons vraiment super hyper clairs. Moi aussi, j'en ai des fantasmes, bien entendu. Il y en a un certain nombre que j'essaye d'ailleurs de réaliser, ce qui est pas toujours évident. Mais là, on parle de toute autre chose, hein. L'idée sous-jacente, elle est vraiment très simple, vous l'avez déjà compris, c'est de pouvoir aider des personnes qui ont des fantasmes plus ou moins difficiles à faire, compliqués, etc. En tout cas, pour elles, ils sont difficiles à faire et compliqués, ça c'est sûr, et voir qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut au moins les réaliser dans une certaine mesure. Bien sûr, il y aura toujours des limites, hein, parce que les fantasmes, ça peut aller très loin, bien entendu, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut quand même envisager de faire. L'idée, c'est donc de créer une association qui serait un groupement de personnes qui font du BDSM, bien entendu, ça peut aider, et de pouvoir organiser des événements privés avec des personnes qui ont des envies de tel ou tel fantasme, à condition, bien sûr, que ce soit possible de les réaliser, parce que tout ça, c'est difficile pour beaucoup de personnes, notamment si on débute un peu, ou si on a des demandes et qu'on ne connaît personne, parce que le BDSM, c'est tabou, etc., hein. Je sais qu'il y a vraiment une demande pour ce genre de choses. Alors, si vous voulez un exemple un peu plus concret, je vous recommande vraiment d'aller lire mon histoire, Lude et l'Adrefa, la visite de L22, dont je viens de parler tout à l'heure, qui est une histoire vraiment intéressante, qui présente l'Adrefa, qui présente des personnes qui en feraient partie, c'est totalement faux, hein. La seule personne réelle, entre guillemets, qui intervient dans l'histoire, c'est mon alter ego Lude, qui est le personnage que j'utilise quand je raconte des histoires BDSM par opposition à des anecdotes ou des histoires vrai, dans ce cas-là, j'utilise mon vrai pseudo, Larry. Les autres personnes n'existent pas réellement, même si elles sont inspirées, bien évidemment, de personnes réelles que j'ai pu rencontrer ici ou là, ou qui sont inspirées sinon de divers profils, enfin, je vous passe les détails. Dans l'article, faut quand même reconnaître que j'ai pas mal exagéré, parce que, par exemple, dans cette histoire, l'héroïne, L22, donc, elle rencontre 16 personnes différentes. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, vous comprendrez si vous lisez l'histoire. Ça se passe dans un immeuble où on fait plein de choses, y compris dans des zones publiques. Vous voyez, c'est vraiment une mise en œuvre de moyens qui, soyons lucides, serait quand même assez difficile à faire en réel. Pas impossible, mais difficile, franchement, soyons raisonnables. Cela dit, c'est pas parce que j'ai exagéré dans cette histoire qu'il n'y a pas plein de choses qu'on pourrait faire, et ce que j'ai décrit dans l'histoire en question, si on enlevait les exagérations du style avoir un immeuble à disposition, etc., serait faisable. Ce que j'y ai décrit est réellement faisable. Alors si vous avez lu l'histoire, probablement que vous savez déjà que oui, c'est tout à fait possible. Si vous l'avez pas lu, ou si vous connaissez pas trop le BDSM, vous vous rendrez peut-être pas compte, mais si vous allez le lire, au moins en diagonale, vous verrez, et donc là je vous l'explique, c'est vraiment possible. Il y a beaucoup de choses qui sont faites là-dedans qui sont assez proches de choses que des gens qui font du BDSM de façon un peu intense, hein, quand même, parce qu'il y a des scènes intenses dans cette histoire. Des personnes le font réellement, ce genre de choses. Hein. Moi-même, j'ai déjà eu l'occasion, et je fais parfois des choses qui sont assez proches de ce que je décris dans cette histoire. Alors bien entendu, quels seraient les bénéficiaires de ce genre de choses ? Ce seraient avant tout des personnes qui débutent plus ou moins, mais aussi, je pense, peut-être plus, des personnes qui connaissent déjà le BDSM, qu'en ont fait un peu, ou peut-être même beaucoup d'ailleurs, mais qui, pour différentes raisons, se retrouvent seules par exemple, parce qu'on s'est séparés, ou qu'on n'a pas de partenaire en ce moment, ou qui ont, tout bêtement, des rêves qui sont pas aisément réalisables, ou en tout cas pas aisément réalisables seul ou dans son couple éventuel, ou juste avec quelques amis, parce que quand on parle de BDSM, c'est pas toujours aisé d'avoir des relations BDSM, vous voyez. Vous pouvez avoir plein d'amis, et c'est pas pour autant que vous avez plein d'amis BDSM qui savent que vous faites du BDSM, qui seraient prêts éventuellement à faire des choses avec vous. La plupart des gens n'ont pas ce genre de choses, parce que le BDSM c'est trop tabou, on n'ose pas en parler, même si en réalité, si on en parlait, vous pouvez être à peu près sûr qu'il y aurait des personnes dans votre entourage qui en font du BDSM, mais comme c'est un sujet délicat, c'est risqué. Donc la plupart des gens se retrouvent sans vraiment de personnes autour d'eux pour pouvoir en parler, problème classique dont j'ai déjà parlé plein de fois, pouvoir en faire, et encore plus faire des choses un peu fantasmées, un peu hors de la norme entre guillemets. Alors une précision quand même pour être plus clair, là quand je pense à ça, à l'Adrefa, je ne pense pas à quelque chose du genre faire l'équivalent de cours d'initiation au BDSM par exemple. Parce que personnellement, je pense que pour le sexe en général, et plus encore pour le BDSM, ça aide beaucoup de pouvoir avoir comme ça une aide, un coup de pouce, surtout quand on démarre. Le BDSM, notamment, ça peut être vraiment utile, vraiment libérateur, surtout quand on sort de milieux qui sont anti-sexe, quand on a des problèmes de timidité, chose que je connais bien, quand on a des problèmes d'introversion, etc., un peu forte, hein. Ça peut être très libérateur d'avoir une première expérience faite avec des gens qui sont un peu sympas, etc., au lieu de se lancer un peu comme ça, au milieu de la mer sans bouée, parce que c'est un peu ça qu'on est obligé de faire dans la plupart des cas. Alors ça aussi, ce serait très utile, et c'est très utile quand c'est possible. Malheureusement, c'est rare, c'est rarement proposé. Mais là, ce dont je parle, c'est pas ça. Je veux être bien clair à ce niveau-là, c'est pour ça que je fais cette petite digression. Mon idée de la DREFA, ce serait pas ça, en fait, parce que ça, on n'aurait pas besoin d'avoir toutes les grandes idées que j'ai. On n'a pas vraiment besoin d'une grande organisation, etc., pour faire des petits essais, des initiations. Ce que je vois, c'est vraiment au-delà. C'est ça que j'essaye d'expliquer, hein. Je vois des choses un peu plus sophistiquées que juste donner rendez-vous à quelqu'un dans un club pour leur montrer, tiens, voilà ce que c'est une fessée, ou bien voilà ce que c'est donner une fessée, ce genre de choses. Vous voyez, des choses comme ça, n'importe qui, moi, quelqu'un qui connaît un peu le BDSM, peut les faire, il n'y a pas besoin d'une association derrière. Et en tout cas, il n'y a pas besoin d'une association qui parle de réaliser des fantasmes. Là, je vise plus haut, entre guillemets, pas juste faire la première fois pour une petite fessée, c'est ça que je veux dire. Cela dit, les choses dont je viens de parler à l'instant, ça aussi, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est aussi un projet que j'ai en tête, mais ce n'est pas le sujet de cet épisode-ci. Alors, donc, l'idée de la DREFA, c'est très sympa, ça me tient assez à cœur sur le principe, mais c'est pas si facile, il y a des problèmes, et je vais vous en parler tout de suite. Troisième partie, les problèmes. Je pense avant même d'entrer dans les détails que, en écoutant les parties précédentes, vous avez déjà immédiatement perçu un certain nombre de soucis. Certains d'entre eux sont évidents, certains sont un petit peu moins évidents, mais dès qu'on y réfléchit un petit peu, ça vous frappe au visage que c'est bien d'avoir des bonnes intentions comme ça. Ça peut être très sympa de faire des choses comme ça, de proposer des choses comme ça, mais quand on passe aux choses sérieuses et qu'on veut être concret, aïe, il y a des soucis, et il y en a pas mal. Alors, quels sont les soucis principaux que j'ai identifiés? Je vous les liste rapidement avant de les détailler un petit peu plus. D'abord, il y a le problème de l'argent. Ensuite, il y a le problème des disponibilités, à la fois en temps et en géographie. Gros souci. Ensuite, il y a le problème des locaux. Enfin, il y a tous les problèmes de risque et de légalité, les problèmes de trouver des personnes pour participer à la DREFA, parce que, bien entendu, vous imaginez bien, j'ai pas du tout l'intention de me jeter là-dedans seul. Et le dernier souci, valider les bénéficiaires des services, entre guillemets, de l'association. Je vais détailler tout ça tout de suite, mais avant d'entrer dans les détails, le premier point super important, c'est il faut relativiser. Parce que certains de ces soucis seront des soucis bloquants pour un certain nombre d'envies, de fantasmes, et pour d'autres fantasmes, probablement beaucoup d'autres d'ailleurs, ce seront pas de vrais problèmes où on peut les contourner. Tout dépend de ce qu'on veut faire. Par exemple, il est évident que si le fantasme, ça consiste à des choses qui requièrent par exemple juste la collaboration de 3 ou 4 personnes dans un appartement, ou une maison, on s'en fiche, c'est pas la même chose que vouloir organiser quelque chose au milieu d'un lieu par exemple public ou plus ou moins public, même si c'est la nuit, avec 20 personnes qui interviennent, ou bien dans un château comme je raconte dans mon histoire avec L22 où on a 38 personnes qui interviennent, etc. Où là c'est complètement fou comme demande. C'est évident que le premier c'est tout à fait faisable, il n'y a pas besoin d'ailleurs d'association. Le deuxième c'est à la limite de l'impossible. Donc tout ce que je vais dire dans la suite, hein, évidemment, ça dépend très fortement du contexte, de la complexité de ce qui est demandé. Il y a des choses faisables, il y a des choses difficiles à faire, il y a des choses impossibles, évidemment. De la même façon que les risques, par exemple, varient très fortement selon ce qu'on veut faire. Il y a certaines choses où les risques d'atteinte physique, c'est-à-dire d'accident, hein, seraient nuls. Il y en a d'autres où il y aurait par exemple du SM, comme ce qui se passe dans l'histoire de L22, où là, il y a des risques. Et comme dans l'histoire, je parle de choses vraiment intenses, il y a vraiment un risque. Donc tout dépend vraiment, vraiment du contexte. Je sais que je le répète dans tous mes épisodes, mais c'est super important. Le premier problème, c'est l'argent. La première question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on fait ça gratuitement ou est-ce que ce serait payant ? Répondre à la question est pas forcément aisé. Cela dit, personnellement, au départ, j'avais même pas envisagé que ce soit payant. Ne serait-ce que parce que quand il y a des choses payantes, ça fait toujours une barrière très injuste pour beaucoup de personnes. Il suffit de voir les événements BDSM, notamment les soirées, hein, qui sont inabordables pour beaucoup de personnes. J'ai reçu pas mal de plaintes à ce niveau-là. Il y a une barrière par l'argent dans les milieux publics BDSM qui est assez importante, parfois très importante, et très injuste évidemment. Donc ça irait à l'encontre, hein, de l'idée d'aider des gens à réaliser des fantasmes. Ce serait vraiment très injuste. D'un autre côté, le faire gratuitement, bon, vous comprenez bien les problèmes que ça pose. Donc, il n'y a pas de réponse simple. Cependant, je pense qu'un problème qui fait que être payant est un gros problème, en dehors du côté un peu injuste, c'est que qui dit quelque chose de payant dit aussi que derrière vous avez beaucoup plus de responsabilités. Si vous payez quelque chose, vous attendez en échange un service, vous attendez une qualité, etc. Si c'est quelque chose qui est fait à 100% de façon bénévole, gratuite, même s'il y a une déception, etc., vous pouvez pas demander grand chose, parce qu'on vous a dit, écoutez, on le fait bénévolement, nous ça nous coûte du temps, des efforts, etc., faut pas demander l'impossible. Donc rien qu'à cause de ça, personnellement, je pencherais pour gratuité à 100%. Peut-être que le mieux serait un juste milieu, c'est-à-dire une partie des frais, du genre louer une chambre d'hôtel, ou bien un gîte BDSM par exemple, qui serait vraiment adapté à des fantasmes. Là, ça aurait assez du sens quand même de demander à la ou les personnes qui seraient bénéficiaires du service, que ce soit à ces personnes-là de payer ça quand même. Ça aurait du sens, parce que c'est beaucoup demandé que demander des dépenses financières de la part d'une association qui serait totalement faite de façon bénévole. Mais en résumé, à mon avis, l'argent, ça peut être un problème, mais c'est pas forcément le plus gros problème. Ça dépend beaucoup du type de fantasme. Je l'avais dit tout à l'heure. Si vous voulez juste faire quelque chose qui implique des personnes, mais on peut se débrouiller en allant, par exemple, dans la maison de quelqu'un qui fait partie de l'association ou qui le prête à l'association, ou dans un appartement, quelque chose comme ça, c'est pas la même chose que louer un gîte qui va probablement coûter des centaines ou des milliers d'euros. Et je parle pas de fantasmes qui coûtent encore plus que ça, dont les délires hein, dans mon histoire où là c'était des dépenses énormes. Mais heureusement, fictives. Le deuxième problème, qui est un très gros problème, c'est les problèmes de disponibilité en temps hein, et de disponibilité géographique. Parce que, par exemple, j'habite en Île-de-France. Vous imaginez bien que réaliser les fantasmes de quelqu'un qui habite totalement à l'autre bout de la France, ce serait un petit peu violent quand même, parce que ça pose un problème. Qui peut se déplacer? Comment? C'est un problème à la fois pour les membres de l'association et donc pour le ou les bénéficiaires. Il faut arriver à faire correspondre les agendas. C'est pas quelque chose de nouveau tout ça. Arriver à mettre d'aplomb un rendez-vous avec des personnes qui sont multiples, qui ont des agendas qui sont probablement très divers, et si en plus on ajoute le côté géographique, ça risque de vite tourner au casse-tête. Du coup, ça pourrait être un sérieux problème dans bon nombre de cas. Bien entendu, là, vous avez compris, je suis parti du principe que si on faisait quelque chose comme ça, on le ferait dans ma région, hein, parce que je vais pas m'amuser à aller faire quelque chose totalement à l'autre bout de la France. Mais rien n'empêcherait d'autres personnes de faire la même chose à l'autre bout de la France. Après tout, je lance l'idée, hein, mais si d'autres personnes veulent le faire, ils sont bienvenus. Troisième problème, les locaux évidemment. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, ça peut être un problème, c'est le problème de l'argent, mais c'est aussi le problème de l'accessibilité, je viens d'en parler à l'instant. Vous avez aussi les soucis de bruit par exemple. Si vous faites des choses un petit peu bruyantes, on peut pas se permettre d'aller n'importe où. Hein. Si vous êtes dans un immeuble notamment, comme là où moi j'habite avec des centaines de personnes autour de vous, certaines choses sont plus difficiles à faire. Faut faire attention évidemment, et tous les endroits ne seront pas forcément très adaptés à tout ça. Le BDSM est pas toujours quelque chose où on fait du bruit, mais ça peut quand même. Et il y a deux autres problèmes, c'est si on a besoin de place, par exemple dans mon histoire, je raconte des choses qui se passent dans l'ascenseur, dans les couloirs, etc. De façon évidente, vous pouvez pas faire ça n'importe où, vous voulez pas que les voisins vous tombent dessus, hein, c'est clair. Et puis vous avez tout simplement l'espace disponible, si vous êtes dans une maison, ça devrait aller, si vous êtes dans un appartement et que c'est un studio de 20 mètres carrés, ça va être peut-être un peu limité. Le quatrième problème, ce sont tous les aspects risques. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, ça dépend de ce qu'on fait, évidemment. Pour un certain nombre de choses, il n'y aura pas de risque, à part quelqu'un qui trébuche et qui tombe dans un escalier, ça c'est impossible à prévoir, mais le BDSM, évidemment, il y a de tout, il y a beaucoup de choses qui sont pas risquées, mais si on fait des fantasmes, il y a des chances qu'on veuille faire des choses un peu intenses, donc certaines catégories de BDSM, notamment le bondage, le shibari, le SM, le sadomasochisme, peuvent devenir risqué à différents degrés. Donc ça dépend beaucoup de ce qu'on veut faire, ça dépend du scénario évidemment. Mais dans certains cas, il y aura des risques et forcément, il faut faire attention, c'est pas aisé de se lancer dans des choses où vous savez qu'il y a un risque avec une tierce personne. Et plus encore quand c'est fait en groupe. Et j'en arrive au cinquième point qui découle de ce que j'étais en train de dire, c'est le côté légal. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut prendre une assurance, parce qu'on fait par exemple des choses avec un groupe de personnes, dans des locaux qui nous appartiennent pas forcément, etc. Il peut y avoir des complications. Si jamais il y a par malheur un problème, un accident même léger, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la personne qui a eu l'accident, que ce soit une des personnes bénéficiaires ou une des personnes de l'association, parce que rien n'empêche que ce soit une personne de l'association qui a le problème, qu'est-ce qu'on fait? Là, je pense que c'est un sérieux problème en fait, en tout cas potentiellement. Le sixième problème, qui est vital évidemment, c'est même la base du problème, parce que sans ça on peut rien faire, c'est comment choisir des membres pour faire partie de l'association et pour aider donc à réaliser les fantasmes en question. Ça c'est un gros problème, un très gros problème. Évidemment, rien n'empêcherait d'autres personnes de faire ce que je propose là, mais si c'était moi qui le lançais, ou qui en lançais une version en tout cas, vous imaginez bien que je peux pas tout faire, parce que je sais pas tout faire, je suis pas toujours disponible, je suis pas forcément la bonne personne si par exemple il y a besoin d'avoir une femme. Moi je suis pas une femme. Il y a aussi des problèmes de physique, par exemple si le fantasme consiste à demander à quelqu'un qui est un grand brun baraqué, je suis pas un grand brun baraqué, c'est donc un tout petit peu difficile de me demander de gagner 15 ou 20 cm dans la nuit, là, ça va être tendu quand même. S'il y a besoin d'avoir une personne qui est soumise, moi je suis dominant. S'il y a besoin d'avoir tel local, moi je l'ai pas, ce local-là. S'il y a besoin d'être à tel endroit, moi j'y suis pas. Enfin, je peux pas tout faire, et de toute façon, je veux pas tout faire, évidemment. Donc il faut d'autres personnes pour aider, évidemment. Hein. Et ça pose des gros problèmes sur qui choisir et à qui aller demander. Parce que, je me répète, hein, je l'ai dit tout à l'heure, mais il y a des choses qu'une personne seule pourrait faire. Et même, ce serait pas très grave s'il n'y a pas le physique exact demandé ou telle caractéristique. Et à un certain nombre de choses, on pourrait s'arranger. Prenons un exemple super basique. Le coup de la sortie avec une femme soumise qui se met nue avec juste une mini-jupe et puis ensuite on fait une balade en public. C'est le genre de choses que j'ai déjà faites. Mais ça, il n'y a pas besoin d'une association ADREFA pour faire ça. On peut le demander à n'importe quel partenaire qui traîne dans les environs. Je veux dire, c'est quelque chose de vraiment basique, il n'y a pas besoin d'une équipe, etc. Alors que là, moi, ce à quoi je pense, hein, ce sont quand même des choses plus compliquées que ça, plus exigeantes, des fantasmes plus délicats à faire, alors que celui que je viens d'écrire, qui est un classique, on s'arrange aisément avec n'importe quelle personne croisée à telle ou telle occasion. Et trouver des gens, ça pose plein de problèmes. Faut trouver des personnes qui ont du temps déjà, j'en ai parlé tout à l'heure, donc de la disponibilité, qui soient géographiquement à des endroits appropriés, qui, tout simplement, c'est la chose la plus importante, veulent bien se dévouer pour le faire. Ça, c'est pas évident, vous pouvez me croire. Mon expérience à ce sujet, elle est vraiment très mauvaise. Ensuite, évidemment, faudrait des personnes qui soient quand même assez sympas, qui aient un caractère adapté, je veux dire, une bonne personnalité, des personnes qui soient sérieuses aussi, parce que il y a quand même beaucoup de gens qui sont pas très sérieux dans les milieux du BDSM, ce qui est pas surprenant, des personnes qui soient raisonnables aussi, tout simplement, et dans une certaine mesure, mais là c'est beaucoup demandé, il faut avoir différents types de personnes, à la fois les types physiques, par exemple, j'ai parlé tout à l'heure du grand brun ténébreux, bon, moi par exemple, je suis pas le grand brun ténébreux, ou peut-être qu'on aurait bien besoin d'une femme blonde ayant tel type d'intérêt BDSM, parce que les intérêts BDSM sont importants. Par exemple, je prends mon cas, moi je suis dominant, je pourrais pas vraiment proposer de faire de la soumission si quelqu'un voulait ça. Faut trouver une personne qui ait quand même les intérêts et les aptitudes éventuellement, BDSM, qui correspondent. Alors là, vous voyez, ça pose très vite de sérieux problèmes. Et si on y ajoute un peu de demandes sur le physique, même global, hein, bien sûr, parce qu'on peut pas demander l'impossible, ça complique les choses. En plus de ça, faudrait certainement avoir une bonne moitié de l'équipe qui soit composée de femmes, qui aient différents intérêts BDSM, notamment de domination, parce qu'à mon avis, il y aurait pas mal de demandes à ce niveau-là. Donc tout ça, mis bout à bout, ça fait beaucoup, beaucoup de choses qui sont demandées, beaucoup d'exigences. Donc c'est carrément difficile, c'est beaucoup demandé. Évidemment, dans mon histoire BDSM, j'avais sans problème trouvé des hommes, des femmes ayant telle ou telle caractéristique, notamment des intérêts BDSM, qui, par magie, entre guillemets, marchaient, mais c'est parce que c'est une histoire. Donc j'ai fait ce qui m'arrangeait, c'était facile. Dans la réalité, évidemment, c'est totalement différent et ce serait super difficile en fait. Je pense que c'est un des points les plus délicats, peut-être le point le plus bloquant, même si après, faut être raisonnable. Évidemment, on va pas non plus demander des profils super hyper spécifiques, parce que sinon, on s'en sort pas. Faut être raisonnable, on va pas demander, par exemple, une femme brune de 2 mètres qui fait du kung-fu, qui aime le pet play, qui soit dominatrice, et qui soit disponible, etc. Je veux dire, c'est beaucoup trop spécifique, hein, évidemment. J'ai pris un exemple un peu comme ça au pif et caricatural, mais il faudrait quand même trouver des personnes qui soient suffisamment souples pour remplir un grand nombre de rôles BDSM. Ce qui est pas aisé. C'est pas aisé. Vraiment, je pense que ce serait un gros problème à ce niveau-là. Pas impossible, mais pas aisé. Enfin, le problème numéro 7, et qui lui aussi est pas aisé et qui est un gros problème, ce serait qu'il faudrait valider les bénéficiaires. Vous avez compris évidemment que faire quelque chose comme ça, même si on se débrouille avec, allez, disons, 2 autres personnes, on serait un groupe de 3, prenons un cas qui me semble faisable. On a un groupe de 3, peut-être de 4 personnes, et on accepte d'aider de temps en temps des personnes à réaliser certains fantasmes. C'est quand même un investissement personnel, clairement. Il n'y a pas d'argent à y gagner en plus, il n'y a pas forcément beaucoup de plaisir personnel, hein, parce que c'est quand même avant tout aider quelqu'un. Donc bon, on y trouve quand même une satisfaction à aider, mais ça a des limites. Tout ça, ça ne pourra pas être proposé à tout le monde. Il y aura sûrement plein de personnes qui seraient intéressées, hein, de pouvoir comme ça réaliser certains fantasmes, même pas forcément super complexes. Je suis sûr qu'il y aurait plein de demandes. Le souci, c'est que toutes les personnes qui font des demandes ne sont pas égales, parce que dans le lot, vous avez de façon certaine des personnes qui, pour moi, ne le méritent pas. Et je veux dire par là des personnes qui sont du genre profiteuses, abusives, qui prétendent avoir besoin d'aide pour faire des choses, mais qui en réalité auraient parfaitement les moyens de se débrouiller seul, parce que ça, j'ai déjà vu passer des choses comme ça dans le passé. Vous avez des personnes qui sont super désagréables, avec de sales caractères, etc. Franchement, pourquoi est-ce que vous voudriez qu'on fasse des efforts pour des gens comme ça? Faut quand même un minimum mériter tout le temps, les moyens mis en œuvre pour ce genre de choses quand même. Alors personnellement, je suis assez négatif là, vous m'en excusez, mais j'ai de bonnes raisons pour ça. Si vous vous rappelez d'épisodes précédents, notamment dans l'épisode 77, aider ou pas mon dilemme, mais aussi mon épisode 51 où je parlais des expériences que j'ai eues avec la création de mon site, et une des choses que je disais qui m'avait frappé, choqué et très fortement découragé, c'est que la plupart des personnes qui me posent des questions, qui m'écrivent sur mon site et à qui je réponds donc, dans la quasi-totalité des cas, j'ai même pas en réponse un simple « merci ». Alors que leur répondre, ça prend du temps, hein. Ça peut prendre une demi-heure, une heure, deux heures dans certains cas. Après ça, vous comprenez pourquoi moi maintenant, comme je l'ai expliqué dans mon épisode 77, je suis de plus en plus hésitant à ce niveau-là. Donc maintenant, quoi que je fasse, je m'attends à beaucoup d'ingratitude, hein, et beaucoup de choses très décourageantes. Donc là, ça m'a amené à être de plus en plus méfiant vis-à-vis des personnes à qui je propose de donner un coup de pouce. Parce que là, je vous ai pas tout dit, et dans mes épisodes précédents, j'ai pas tout dit, hein. Il y a des personnes que j'ai vraiment beaucoup aidées, et qui m'ont vraiment traité de façon absolument odieuse et tout à fait impardonnable. Du coup, je suis méfiant maintenant. Mais d'un autre côté, hein, bien sûr, il y a pas mal de personnes qui sont tout à fait correctes et qui, elles, mériteraient qu'on leur donne ce coup de pouce. Le problème, c'est distinguer lesquelles ce sont. Et ça, c'est pas forcément évident. Donc là aussi, on est face à un vrai problème qui est absolument majeur. Quatrième partie, alors, est-ce vraiment un rêve inaccessible ou pas ? Avant d'essayer de répondre à la question, ce projet-là, qui est pour l'instant, franchement, juste au stade d'idées vagues dans mon esprit, j'aimerais pouvoir le faire, ça me tient assez à cœur sur le principe, ça fait partie des choses que j'aimerais vraiment faire. C'est pas la prioritaire, c'est pas la numéro 1, il y a d'autres sujets qui me tiennent encore plus à cœur, mais c'est un des sujets qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment une idée que je trouve intéressante, et que j'aimerais un jour pouvoir réaliser sous une forme ou une autre. Mais la question est-ce que ce serait possible. Vous avez vu, dans la partie 3, il y avait beaucoup de problèmes quand même. Et les plus délicats, à mon avis, c'était vraiment le 6 et le 7, c'est des problèmes, comme toujours, les problèmes de personnes. Les problèmes de personnes pour aider, participer, même si c'est pas forcément à chaque fois, hein, à l'association elle-même. Et puis, le problème de voir qui le mérite, entre guillemets, c'est-à-dire pour qui est-ce que on aura vraiment une raison de se dévouer comme ça et de faire des efforts. Ce sont clairement les vrais gros problèmes. C'est toujours d'ailleurs la même chose, je pense que ça vous surprend pas. Si on les met bout à bout, ces 7 problèmes que j'ai identifiés, c'est pas facile, hein. Franchement, c'est pas très encourageant, faut le reconnaître, c'est pas très encourageant. Alors après, évidemment, c'est ce que je disais depuis le départ, il faut relativiser. Tout dépend de ce qu'on veut faire, de jusqu'où on veut aller. Je l'ai dit, hein, ce que je décrivais dans l'histoire de L22, c'était assez délirant quand même. Pas impossible, ce serait faisable, mais franchement, c'était un peu exagéré. Je n'envisage pas de faire des choses aussi sophistiquées, aussi compliquées, dans la vraie vie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas plein de choses qu'on puisse faire. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a plein de fantasmes qui ne vont pas à des choses totalement extrêmes. Il y aurait des moyens de contourner les problèmes d'argent, de locaux, ça se contourne. Le gros souci reste les personnes, évidemment. Mais dans le principe, si on prend un peu de recul et qu'on voit que finalement, on va pas considérer que des exemples extrêmes, hein, parce que si quelqu'un demande quelque chose d'impossible, bah on dira tout simplement « je suis désolé, c'est impossible, c'est trop demandé, évidemment ». Mais il y a beaucoup de choses, on m'a contacté plusieurs fois dans les mois qui viennent de passer, hein, pour demander des choses qui étaient totalement faisables et qui auraient pu faire partie de choses qu'une association de type ADREFA aurait pu réaliser. Et qui là, je veux être clair, serait vraiment, vraiment possible, hein, sans avoir besoin de moyens délirants et même d'un nombre de personnes délirants. Je pense au final, vous avez probablement déjà perçu là où je vais en venir. La faisabilité de ce rêve, entre guillemets, dépend avant tout de ce qu'on accepterait de faire et des demandes des personnes. Je l'ai dit tout à l'heure, je vais mettre de côté les côtés initiation, du style « est-ce que vous pouvez m'emmener dans une soirée, j'ai envie de voir ce que c'est, ou bien est-ce que vous pouvez me donner une petite fessée, etc. » Là, ce sont des choses qui sont entre guillemets triviales, qui n'auraient absolument pas besoin d'avoir une organisation comme celle à laquelle je rêve, entre guillemets. C'est des choses, on peut se débrouiller avec n'importe quelle personne, hein, je l'ai dit tout à l'heure, qu'on croise à une occasion. C'est des choses que j'ai fait à l'occasion avec telle ou telle personne, mais ça n'a rien à voir avec là ce que je vise, ce serait quand même au-dessus, hein, un peu plus compliqué. Que juste une petite démonstration de qu'est-ce que c'est qu'une fessée. On va pas se mettre à créer des tas de trucs compliqués à plusieurs personnes pour quelque chose d'aussi simple. Par contre, quand on parle de choses plus sophistiquées, évidemment, il faut voir ce qui est faisable. Et certaines choses, plus ça devient une demande exigeante, plus ça devient difficile, voire impossible. Donc pour moi, ce serait possible en fait. Ce n'est pas un rêve inaccessible, mais évidemment, sous les conditions, avec les réserves que j'ai exprimées tout à l'heure, d'abord les problèmes que j'ai présentés dans la partie 3, bien entendu. Et puis, bien entendu, les limites de ce qui est faisable, parce que il y a des choses qui sont trop difficiles, pour lesquelles c'est trop demandé, et qu'on ne peut pas faire, c'est pas raisonnable. Ça ne veut pas dire qu'il y en ait pas plein d'autres qu'on pourrait faire. Et c'est ça que je viserais, évidemment. Là, comme je l'ai dit à l'instant, hein, j'ai vraiment en tête un ou deux exemples où vraiment ce serait tombé dans des choses relativement simples qu'aurait pu faire la DREFA et qui ne demandaient pas énormément de moyens, de choses compliquées, etc. Donc je prends comme étant encourageante sur le principe que ce serait possible pour ça de mettre en œuvre justement les idées hein, que j'ai quand je parle de la DREFA. Donc dans le principe, je pense pas que c'est impossible, je pense pas que c'est irréalisable, à condition d'être raisonnable dans les attentes, à la fois les attentes des personnes qui participent à l'association, et puis les attentes des personnes qui sont bénéficiaires, pour bien souligner que on peut faire des choses, on fait un effort, mais faut pas demander l'impossible. Cela dit, il y aura quand même, surtout si un jour, comme j'espère que ce sera possible, quelque chose de ce genre-là est créé, existe réellement, au début notamment, ça va être dur, parce qu'il va falloir du temps, des efforts pour se roder tout simplement, pour voir exactement comment on fait les choses. C'est exactement comme faire du BDSM à vos débuts par exemple, si vous en faites déjà depuis longtemps comme moi, c'est pas la même chose qu'on faisait au début et ce qu'on fait 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Il y a une grosse différence. Et là, ça va être pareil. Les premières fois, il y aura plein d'inconnus, plein d'incertitudes, plein de difficultés, peut-être des problèmes auxquels j'aurais pas pensé, ou auxquels les autres personnes aussi n'auront pas pensé. Bref, on sera obligé de toute façon d'y aller un peu à l'improvisation au départ, parce que c'est un peu difficile de faire autrement, parce qu'il y aura pas grand monde pour donner des conseils pour quelque chose comme ça, évidemment. Donc le début, ce sera aussi assez difficile. Je me fais pas d'illusions à ce niveau-là. Mais c'est comme pour tout, je ne me décourage pas à cause de ça. J'en suis conscient, mais je me décourage pas pour autant. Tout ça, dans le principe, ça me paraît intéressant, ça me paraît possible, avec les limites que je viens de vous expliquer. Et ce que j'espère, c'est un jour vraiment être capable de proposer d'une façon ou d'une autre, même si c'est ponctuel, des choses un peu dans ce genre-là. Ce sera pas pour tout de suite, hein, surtout ne me contactez pas en imaginant que demain je vais vous proposer de réaliser tous vos fantasmes, parce que moi je veux bien essayer d'aider, mais faut pas non plus demander l'impossible. J'ai plusieurs autres projets comme ça, pareil, où j'avais lancé des choses, et malheureusement, ça s'est avéré pas être vraiment possible parce que les personnes que j'avais contactées, par exemple, ça l'a pas fait, notamment pour ce que je voulais faire en film porno BDSM, pour présenter un peu des pratiques BDSM avec des exemples. C'était tombé à l'eau parce que la personne que j'avais trouvée avait finalement renoncé. Mais ça veut pas dire pour autant que j'abandonne l'idée, c'est juste que pour l'instant, c'est pas facile, et c'en est encore à l'état d'idée, de projet, avant d'arriver à trouver vraiment les bonnes personnes. Donc là, pour ça, ce serait le même problème. Évidemment. Mais qui sait, peut-être que ça viendra, peut-être dans un an, deux ans, trois ans, ça va peut-être vous paraître très loin, mais moi ça fait plus de sept ans que je travaille sur mes projets, donc c'est pas si loin que ça finalement. On verra, peut-être qu'un jour, vous entendrez soudain parler de « Ah bah tiens, ça existe la DREFA ?» ou peut-être que ça n'existera jamais et que ça restera jamais qu'un rêve. Je sais pas encore, mais on verra, l'avenir nous le dira. « En attendant que j'arrive réellement à créer peut-être un jour cette association pour l'instant encore mythique, je vous encourage, si c'est pas déjà fait, à aller lire mon histoire BDSM, hein, qui raconte une anecdote que l'Adrefa aurait pu faire. C'est une histoire assez intéressante parce qu'elle vous présente aussi un mindfuck BDSM. Si vous avez pas lu cette histoire, je pense que ça pourrait vous intéresser, et si vous la lisez, vous comprendrez beaucoup mieux, beaucoup plus concrètement ce que je voudrais faire comme genre de choses, parce que l'histoire est assez détaillée, il y a plein de personnages qui interviennent, il y a plein de choses qui se passent, et il y a plein d'explications à la fin qui, à mon avis, vous surprendront. En plus, c'est une histoire BDSM que je trouve assez intéressante, mais après, chacun ses goûts. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça, c'est un de mes divers projets, multiples et variés, qui vont dans plein de directions possibles, dont certains n'ont absolument rien à voir avec ça, d'ailleurs. Je vous ai par exemple parlé de mon projet de faire des vidéos porno pour montrer des exemples de choses qu'on peut faire, une espèce d'initiation au format vidéo, si vous voulez, et j'ai un certain nombre d'autres projets totalement différents, qui ont absolument rien à voir, qui me traînent dans la tête et qui sont plus ou moins priorisés les uns par rapport aux autres. Certains sont franchement peu probables, c'est-à-dire sont des idées qui sont difficiles à mettre en œuvre et probablement qui ne mèneront jamais à rien. En général, ceux-là, j'en parle pas parce que je sais que ça sert à rien d'en parler si c'est vraiment quelque chose de très difficile à mettre en œuvre. Le coup des vidéos porno, j'en avais parlé parce que à un moment donné, ça avait l'air de devoir se faire. Bon, c'est tombé à l'eau, pas de chance. Quant à l'Adrefa, je sais pas encore. Je pense que c'est quelque chose qui sera possible un jour, peut-être. Peut-être que ce sera pas moi d'ailleurs qui le ferai. Quelqu'un d'autre peut-être se dévouera, se trouvera une âme de guide de l'Adrefa ou de quelque chose d'équivalent, parce qu'il n'y a pas besoin d'utiliser ce nom-là, bien sûr. Tout ça, on le verra dans le futur. En tout cas, je promets rien, je ne m'engage à rien, évidemment, mais quand même, j'aimerais bien que ce soit possible, un jour. Bref, tout ça, c'est à suivre. J'espère que cet épisode vous a intéressé et qu'il vous a plu. Si vous avez des questions, des remarques, des suggestions, des idées d'articles pour mon site ou pour des épisodes du podcast, vous pouvez me joindre en allant sur mon site univers-bdsm.info. Dans la rubrique contact, vous trouverez un formulaire qui vous permet de m'envoyer un message en restant anonyme si vous le désirez. Vous y trouverez aussi mon adresse email si vous voulez m'écrire directement. Et vous pouvez aussi trouver mon adresse email sur le site du podcast, adresse podcast.univers-bdsm.info. Si vous avez des chose à dire, surtout n'hésitez pas, je suis toujours très intéressé par tous les retours qu'on peut me faire. Merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de nouveaux épisodes sur le podcast BDSM de Larry.